Chapitre 9. Je fais la figure qui convient à mon nom et à ma naissance. La fortune, souriante à M. de Balibari au moment de son départ, lui permit de gagner une jolie somme avec sa banque de pharaon. Le lendemain matin, à 10 heures, la voiture du chevalier de Balibari arrivait comme d'habitude à la porte de son hôtel. Et le chevalier, qui était à sa fenêtre, voyant son équipage, descendit l'escalier de l'air imposant qui le caractérisait. « Où est ce drôle d'Ambroise ? » dit-il, regardant autour de lui et ne voyant pas son domestique qui aurait dû être là pour lui ouvrir la portière. « Je vais abaisser le marchepied à votre honneur, » dit un gendarme qui se tenait près du carrosse. Et le chevalier n'y fut pas plus tôt entré que l'officier de police y sauta après lui. Un autre monta sur le siège à côté du cocher et ce dernier se mit en route. « Bonté divine !» dit le chevalier. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Vous allez à la frontière, » dit le gendarme en portant la main à son chapeau. « C'est abominable ! C'est infâme ! J'insiste pour qu'on me descende à l'ambassade d'Autriche. »« J'ai l'ordre de bâillonner votre honneur s'il crie, » dit le gendarme. « Toute l'Europe sera instruite de ceci, » dit le chevalier en fureur. « Comme il vous plaira, » répondit l'officier. Et là-dessus, ils rentrèrent dans le silence. Le silence ne fut pas interrompu entre Berlin et Potsdam, que le chevalier traversa au moment où Sa Majesté y passait la revue de ses gardes et des régiments de Bulow et de Heikel de Donnersmarck. Comme le chevalier passait devant Sa Majesté, le roi leva son chapeau et dit en français « Qu'il ne descende pas, je lui souhaite un bon voyage ». Le chevalier de Balibari reconnut cette courtoisie par un profond salut. Il n'était pas beaucoup au-delà de Potsdam quand, boum, le canon d'alarme commença à tonner. « C'est un déserteur, » dit l'officier. « Est-il possible ? » dit le chevalier, et il se renfonça dans sa voiture. Au bruit du canon, les hommes du peuple sortirent le long de la route avec des fusils et des fourches, dans l'espoir d'attraper le fuyard. Les gendarmes avaient l'air fort désireux de le dépister. Le prix d'un déserteur était de 50 écus pour ceux qui les ramenaient. « Avouez, monsieur, » dit le chevalier à l'officier de police qui était dans la voiture avec lui, « que vous mourrez d'envie d'être débarrassé de moi, dont vous ne pouvez rien tirer, et de pouvoir vous mettre à la recherche du déserteur qui peut vous rapporter 50 écus. Que ne dites-vous au postillon de presser le pas ? Vous pourrez me déposer à la frontière et revenir à votre chasse d'autant plus vite. » L'officier dit au postillon d'avancer, mais le chemin semblait d'une longueur insupportable au chevalier. Une ou deux fois, il crut entendre le bruit d'un cheval au galop par derrière. Ses propres chevaux ne semblaient pas faire 2000 à l'heure, mais ils les faisaient. Enfin, ils arrivèrent en vue des barrières noires et blanches, tout près de Bruck, et en face étaient celles vertes et jaunes de la Saxe. Les douaniers saxons sortirent. « Je n'ai aucun bagage, » dit le chevalier. « Monsieur n'a pas de contrebande, » dirent en ricanant les gendarmes prussiens, et ils prirent congé de leurs prisonniers avec beaucoup de respect. Le chevalier de Balibari leur donna à chacun un Frédéric. « Messieurs, dit-il, je vous souhaite le bonjour. Voulez-vous bien aller à la maison d'où nous sommes partis ce matin et dire à mon domestique d'envoyer mon bagage aux Trois Bois à Dresden ?» Puis, ordonnant des chevaux frais, le chevalier se mit en route pour cette capitale. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'était moi qui étais le chevalier. Du chevalier de Balibari à Redmond Barry, Esquire, gentilhomme anglais, à l'hôtel des Trois Couronnes, à Dresde, en Saxe. Neveu Redmond, ceci vous sera remis par une main sûre, qui n'est autre que M. Lumpit, de la mission anglaise, qui est instruit, comme tout Berlin va l'être, de notre merveilleuse histoire. Ils n'en savent encore que la moitié. Ils savent seulement qu'un déserteur est parti sous mes habits, et tout le monde est dans l'admiration de votre habileté et de votre courage. Je confesse que pendant 2 heures, après votre départ, j'ai été au lit dans une anxiété qui n'était pas médiocre, à me demander si Sa Majesté n'aurait pas la fantaisie de m'envoyer à Spandau pour l'escapade dont nous nous étions rendus coupables tous les deux. Mais, le cas échéant, mes précautions étaient prises. J'avais écrit un exposé du fait à mon chef, le ministre d'Autriche, avec le récit fidèle et véridique de la manière dont on vous avait placé comme espion auprès de moi. Comme quoi il s'est trouvé que vous étiez mon très proche parent, comme quoi vous-même, on vous avait enlevé et fait entrer de force au service, et comme quoi nous avions résolu tous les deux d'effectuer notre évasion. Le rire aurait été tellement contre le roi que jamais il n'aurait osé mettre la main sur moi. Qu'aurait dit M. de Voltaire d'un tel acte de tyrannie? Mais c'était un jour de bonheur, et tout a tourné selon mon désir. Il y avait 2h30 que j'étais au lit depuis votre départ, lorsque entre votre excellent capitaine Potsdorf. Redmond, dit-il avec son ton impérieux de Hollandais, êtes-vous là? Point de réponse. Le drôle est parti, dit-il, et aussitôt il va à ma boîte rouge, où je garde mes lettres d'amour, le lorgnon dont je me servais, mes dés favoris avec lesquels j'ai passé 13 fois à Prague, mes 2 râteliers de Paris, et mes autres petits secrets que vous savez. Il essaye d'abord un trousseau de clés, mais aucune ne va à la petite serrure anglaise. Alors mon gentilhomme tire de sa poche un ciseau et un marteau, et se met à l'œuvre, comme un voleur de profession, à forcer ma petite boîte. C'était l'instant d'agir. Je m'avance vers lui, armé d'un immense pot à eau. J'arrive sans bruit, juste comme il venait de briser la boîte, et de toute ma force, je lui donne sur la tête un coup qui met le pot à eau en 1000 pièces et étend mon capitaine sans connaissance à terre. Je crus l'avoir tué. Alors je sonne toutes les trompettes de la maison, et je crie, et jure, et tempête. « Ô voleur! Ô voleur! Monsieur l'hôte! Au meurtre! Au feu !» Jusqu'à ce que toute la maison monte en se culbutant. « Où est mon domestique ? » criai-je. « Qui est-ce qui ose me voler en plein jour ? Voyez ce misérable que je trouve forçant mon coffre. Envoyez chercher la police. Envoyez chercher son Excellence le ministre d'Autriche. Toute l'Europe saura cette insulte. »« Juste ciel, » dit l'hôte, « nous vous avons vu partir il y a 3 heures. »« Moi, dis-je, eh, mon brave, j'ai été au lit toute la matinée. Je suis malade, j'ai pris médecine. Je n'ai pas quitté la maison d'aujourd'hui. Où est ce vaurien d'Ambroise ? Mais arrêtez, où sont mes habits et ma perruque ? Car j'étais devant eux en robe de chambre et en bonnet de nuit. « j'y suis, » dit une petite chambrière. « Ambroise est parti dans les habits de votre honneur. » « Et mon argent, dis-je. Où est ma bourse, dans laquelle il y avait 48 Frédéric ? Mais il nous reste un de ces coquins. Gendarme, saisissez-le. » « C'est le jeune Herr von Potsdorf, » dit l'hôte, de plus en plus étonné. « Quoi ? Un gentilhomme forçant mon coffre avec un marteau et un ciseau ? Impossible. » Herr von Potsdorf, pendant ce temps-là, revenait à la vie avec une bosse au crâne grosse comme une casserole. Et les officiers de police l'emportèrent, et le juge qu'on avait été chercher dressa un procès-verbal de la chose, et j'en demandai une copie que j'envoyai sur le champ à mon ambassadeur. Je fus retenu prisonnier dans ma chambre le lendemain, et un juge, un général, toute une armée d'hommes de loi, d'officiers et d'employés, furent mis à mes trousses pour m'intimider, me troubler, me menacer et me cajoler. Je dis qu'il était vrai que vous m'aviez raconté quand vous avez fait entrer de force au service, que je vous en croyais libéré et que j'avais eu de vous les meilleures recommandations. J'en appelai à mon ministre, qui était tenu de venir à mon aide, et pour abréger, le pauvre Potsdorf est en ce moment en route pour Spandau. Et son oncle, le vieux Potsdorf, m'a apporté 500 louis avec une humble requête de quitter Berlin immédiatement et d'étouffer cette déplorable affaire. Je serai avec vous aux 3 couronnes le lendemain du jour où vous recevrez ceci. Invitez M. Lamput à dîner. N'épargnez pas votre argent, vous êtes mon fils. Tout le monde à Dresde connaît votre affectionné oncle, le chevalier de Balibari. » Grâce à ces merveilleuses circonstances, je redevins libre et je gardai la résolution que j'avais faite alors de ne plus retomber dans les mains d'aucun recruteur et d'être à l'avenir et à tout jamais un gentilhomme. Avec cette somme d'argent et une bonne veine que nous eûmes bientôt, nous fûmes en état de faire une figure assez passable. Mon oncle m'avait rejoint promptement à l'auberge de Dresde, où, sous prétexte de maladie, je m'étais tenu tranquille jusqu'à son arrivée. Et comme le chevalier de Balibari était tout à fait en bonne odeur à la cour de Dresde, ayant été une connaissance intime du feu monarque l'électeur, roi de Pologne, le plus dissolu et le plus désagréable des princes européens, je fus vite lancé dans la meilleure société de la capitale saxonne, où je puis dire que ma personne, mes manières et la singularité des aventures dont j'avais été le héros me firent particulièrement bien venir. Il n'était pas de parti dans la noblesse où les deux messieurs de Balibari ne fussent invités. J'eus l'honneur des baise-mains et d'une gracieuse réception à la cour de l'électeur, et j'écrivis à ma mère une si flamboyante description de ma prospérité que la bonne âme en fut bien près d'oublier son salut et son confesseur, le révérend Joshua Jones, pour venir me retrouver en Allemagne. Mais les voyages étaient fort difficiles à cette époque, et nous évitâmes l'arrivée de la brave dame. Je pense que l'âme de Harry Barry, mon père, qui eut toujours des goûts si distingués, dut être réjouie de voir la position que j'occupais alors. Toutes les femmes avides de me recevoir, tous les hommes furieux, trinquant avec les ducs et les comtes à souper, dansant le menuet avec de hautes baronnes bien nées, comme elles s'appellent absurdement en Allemagne, avec d'adorables excellences, que dis-je, avec les altesses et les transparences elles-mêmes. Qui pouvait rivaliser avec le galant et jeune noble irlandais? Qui aurait supposé que 7 semaines auparavant, j'étais un simple... Bah, j'ai honte d'y penser. Un des plus agréables moments de ma vie fut à un grand gala au palais électoral où j'eus l'honneur de valser une polonaise avec la margrave de Bayreuth, en personne, la propre sœur du vieux Fritz. Du vieux Fritz dont j'avais porté la livrée de gros drap bleu, dont j'avais blanchi les ceinturons, et dont j'avais avalé pendant 5 années les abominables rations de petites bières et de choucroute. Ayant gagné au jeu, d'un gentilhomme italien, un carrosse anglais, mon oncle fit peindre nos armes sur les panneaux d'une façon plus splendide que jamais, surmontées, comme nous descendions des anciens rois, d'une couronne irlandaise magnifique de dimensions et de dorures. J'avais cette royale couronne gravée sur une grande améthyste que je portais en bague à mon index. Et je ne me gênerai pas pour avouer que j'avais coutume de dire que ce joyau était dans ma famille depuis plusieurs milliers d'années, ayant originairement appartenu à mon ancêtre direct, feu Sa Majesté le roi Brian Boney ou Barry. Je vous réponds que les légendes du Herald's College ne sont pas plus authentiques que ne l'était la mienne. D'abord, le ministre et les gentilshommes de l'hôtel anglais furent passablement réservés avec nos deux seigneuries irlandaises et contestèrent nos prétentions. Le ministre était un fils de Lord, il est vrai, mais il était également le petit-fils d'un épicier, et je le lui dis, au bal masqué du comte de Lobkowitz. Mon oncle, comme un noble gentilhomme qu'il était, connaissait la généalogie de toutes les familles considérables de l'Europe. Il disait que c'était la seule érudition qui convainc à un gentilhomme. Quand nous n'étions point aux cartes, nous passions des heures sur Gwilym ou Dozier à lire les généalogies, à apprendre les blasons et à nous mettre au courant des parentés de notre classe. Hélas, cette noble science est maintenant tombée en discrédit. Il en est de même des cartes, études et passe-temps sans lesquels j'ai peine à concevoir qu'un homme d'honneur puisse exister. Ma première affaire avec un homme de qualité incontestable eut lieu, à propos de ma noblesse, avec le jeune Sir Rumford Bumford de l'ambassade anglaise, mon oncle envoyant en même temps un cartel au ministre qui refusa de venir. Je blessai Sir Rumford à la jambe au milieu des larmes de joie de mon oncle qui m'avait accompagné sur le terrain. Et je vous promets qu'aucun des jeunes gentilshommes ne mit plus en question l'authenticité de ma généalogie et ne rit plus de ma couronne irlandaise. Quelle délicieuse vie nous menions à présent! Je vis que j'étais né gentilhomme rien qu'au goût que je pris à la besogne, car réellement c'en était une. Quoique cela semble tout plaisir, cependant j'assure à toutes les personnes de basse condition qui pourront dire ceci, que nous autres, leurs supérieurs, nous avons à travailler aussi bien qu'elles. Si je ne me levais qu'à midi, est-ce que je n'avais pas été au jeu bien longtemps après minuit? Maintes fois nous sommes rentrés nous coucher, comme les troupes se rendaient à la parade du matin, et quel bien cela me faisait au cœur d'entendre les clairons sonner la diane avant le point du jour, ou de voir les régiments aller à l'exercice, et de penser que je n'étais plus assujetti à cette dégoûtante discipline, mais rendu à ma condition naturelle. J'y entrais de plein saut, et comme si je n'avais jamais fait autre chose de ma vie. J'avais un valet de chambre, un friseur français pour me coiffer le matin. Je connaissais le goût du chocolat presque par intuition et pouvais distinguer entre le véritable espagnol et le français avant d'avoir été une semaine dans ma nouvelle position. J'avais des bagues à tous les doigts, des montres dans mes deux goussets, des camées, des bijoux et des tabatières de toutes sortes, et chacune surpassant l'autre en élégance. J'avais un meilleur goût naturel que personne pour la dentelle et la porcelaine. Je pouvais juger d'un cheval aussi bien qu'aucun maquignon de l'Allemagne. À la chasse à tir et aux exercices athlétiques, j'étais sans rival. L'orthographe, je ne dis pas, mais je savais parler admirablement l'allemand et le français. J'avais au moins 12 habits complets, 3 richement brodés d'or, 2 galonnés d'argent, une pelisse de velours grenat garnie de zibeline, une de gris français galonnée d'argent et garnie de chinchilla. J'avais des robes de chambre en damas. Je prenais des leçons de guitare et chantais des canons français d'une façon exquise. Où trouver, dans le fait, un gentilhomme plus accompli que Redmond de Balibari? Tout le luxe qui convenait à mon rang ne pouvait pas, comme de raison, s'acheter sans crédit ni argent, et pour s'en procurer, comme notre patrimoine avait été dissipé par nos ancêtres, et que nous étions au-dessus de la vulgarité et des lents profits et chances douteuses du commerce, mon oncle tenait une banque de pharaon. Nous étions associés avec un Florentin bien connu dans toutes les cours de l'Europe, le comte Alessandro Pippi, un aussi habile joueur qu'on n'en ait jamais vu. Mais il a tourné abominablement depuis peu, et j'ai découvert que monsieur le comte n'était qu'un imposteur. Mon oncle était estropié, comme j'ai dit. Pippi, comme tous les imposteurs, était un poltron. C'était mon adresse sans rivale à l'épée et mon empressement à la tirer qui maintenait la réputation de la banque, pour ainsi dire, et réduisait au silence main timide joueur qui aurait hésité à payer ses pertes. Nous jouions toujours sur parole avec tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire les gens d'honneur et de noble lignage. Nous ne tourmentions jamais ceux que nous avions gagnés, et nous ne refusions pas de recevoir des billets d'eux au lieu d'or. Mais malheur à l'homme qui ne payait point à l'échéance. Il était sûr de voir Redmond de Balibari se présenter chez lui avec son billet, et je vous promets qu'il y avait fort peu de mauvaises dettes. Au contraire, on était reconnaissant de nos ménagements, et notre réputation d'honneur était inattaquée. Dans ces derniers temps, un vulgaire préjugé national s'est plu à jeter une tache sur le caractère des gens d'honneur qui exercent la profession de joueur. Mais je parle du bon vieux temps de l'Europe, avant que la lâcheté de l'aristocratie française, dans la honteuse révolution qui l'a traitée comme elle le méritait, n'eût causé le discrédit et la ruine de notre ordre. Les gens crient haro maintenant sur les hommes qui jouent. Mais je voudrais savoir si leurs moyens d'existence sont beaucoup plus honorables que les nôtres. L'agent de change qui joue la hausse et la baisse, et vend, et achète, et tripote avec les valeurs en dépôt, et trafique des secrets d'État, qu'est-il, sinon un joueur? Le marchand qui fait le commerce du thé et de la chandelle, est-il quelque chose de mieux? Ses balles de sale indigo sont ses dés. Ses cartes lui arrivent chaque année au lieu de toutes les 10 minutes, et la mer est son tapis vert. Vous appelez la robe une profession honorable, où un homme ment pour quiconque le paye, écrase la pauvreté pour toucher des honoraires de la richesse, écrase le juste parce que l'injuste est son client. Vous appelez honorable un médecin, un escroc de charlatan qui ne croit point aux élixirs qu'il prescrit, et vous prend votre guinée pour vous avoir dit à l'oreille qu'il fait beau ce matin. Tandis qu'un galant homme qui s'assoit devant un tapis vert et provoque tous les arrivants, son argent contre le leur, sa fortune contre leur fortune, est proscrit par votre monde moral d'à présent. C'est une conspiration des classes moyennes contre les gentilshommes, c'est le cant du boutiquier qu'il faut subir de notre temps. Je dis que le jeu était une institution de chevalerie. Il a fait naufrage avec les autres privilèges des hommes de naissance. Quand Seingalt tenait tête à un homme 36 heures de suite sans quitter la table, pensez-vous qu'il ne faisait pas preuve de courage? Comment avons-nous eu le meilleur sang et aussi les yeux les plus brillants de l'Europe, palpitant autour de la table, quand mon oncle et moi tenions les cartes et la banque contre quelque terrible joueur qui risquait quelques milliers sur ses millions de guinées, contre tout notre avoir qui était sur le tapis. Quand nous engageâmes la lutte contre cet audacieux Alexis Kozlovski et que nous lui gagnâmes 7 000 louis d'un coup, si nous eussions perdu le lendemain, nous étions des mendiants. Lui, lorsqu'il perdit, il ne s'agissait pour lui que d'un village et de quelques centaines de serfs à mettre en gage. Quant à Teplitz, le duc de Courlande amena 14 laquais, chacun avec 4 sacs de florins, et provoqua notre banque à tenir la somme qui était dans les sacs cachetés, que lui demandâmes-nous? Nous lui dîmes, « Monsieur, nous n'avons que 80 000 florins dans la banque, ou 200 000 à 3 mois. Si les sacs de votre Altesse n'en contiennent pas plus de 80 000, nous acceptons. » Et nous le fîmes, et après 11 heures de jeu, pendant lesquelles notre banque fut un moment réduite à 203 ducats, nous lui gagnâmes 7 000 florins. N'est-ce pas là de la hardiesse? Cette profession ne demande-t-elle pas de l'habileté et de la persévérance et de la bravoure? 4 têtes couronnées regardaient la partie, et une princesse impériale, quand je tournais l'as de cœur et fis paroli, se mit à fondre en larmes. Nul homme sur le continent européen n'avait alors une plus haute position que Redmond Barry, et quand le duc de Courlande perdit, il voulut bien dire que nous avions gagné noblement. Et c'était vrai, et nous dépensâmes noblement aussi ce que nous avions gagné. À cette époque, mon oncle, qui allait régulièrement à la messe tous les jours, mettait chaque fois dans le tronc 10 florins. Partout où nous allions, les maîtres des tavernes nous faisaient plus d'accueil qu'à des altesses royales. Nous avions coutume de faire distribuer les débris de nos soupers et de nos dîners à des 20aines de mendiants qui nous bénissaient. Tout homme qui tenait mon cheval ou nettoyait mes bottes avait un ducat pour sa peine. J'étais, je puis le dire, l'auteur de notre fortune à tous deux, ayant introduit l'audace dans notre jeu. Pipi était une poule mouillée qui devenait poltron lorsqu'il commençait à gagner. Mon oncle, je parle de lui avec grand respect, avait trop de superstition et trop peu de fantaisie pour jamais jouer largement. Son courage moral était incontestable, mais sa hardiesse n'était pas suffisante. Tous deux, quoique plus âgés que moi, me reconnurent bien vite pour leur chef, et de là l'éclat que j'ai décrit. J'ai parlé de son Altesse impériale, la princesse Frédérique Amélie, qui fut si émue de mon succès. Et je me souviendrai toujours avec gratitude de la protection dont m'honorait cette auguste dame. Elle aimait passionnément le jeu, comme en général les dames de presque toutes les cours de l'Europe à cette époque, et il en résultait pour nous des ennuis qui n'étaient pas minces. Car, il faut dire la vérité, les dames aiment à jouer, certainement, mais elles n'aiment pas à payer. Le point d'honneur n'est pas compris de ce charmant sexe, et c'était avec la plus grande difficulté que, dans nos pérégrinations parmi les différentes cours du nord de l'Europe, nous les tenions éloignées de la table, que nous nous faisions payer si elles perdaient, ou que, si elles payaient, nous les empêchions d'user des plus furieux et des plus extraordinaires moyens de vengeance. Dans ces grands jours de notre fortune, je calcule que nous ne perdîmes pas moins de 14 000 louis par de telles banqueroutes. Une princesse de maison ducale nous donna de faux diamants au lieu des vrais qu'elle avait solennellement engagés. Une autre organisa un vol des diamants de la couronne et en aurait jeté l'odieux sur nous sans la précaution de Pipi qui avait gardé un billet que nous avait donné sa haute transparence et l'envoya à son ambassadeur, précaution qui, je le crois vraiment, sauva notre coup. Une troisième dame d'un rang élevé, mais non princier cette fois, après que je lui eus gagné pour une somme considérable de diamants et de perles, envoya son amant avec une bande de coupe-jarret pour me dresser un guet-apens, et je ne dus qu'à un courage, une adresse et un bonheur extraordinaires d'échapper à ces scélérats, blessé moi-même, mais laissant mort sur la place le principal agresseur. Mon épée lui entra dans l'œil et s'y brisa. Et ses complices, voyant leur chef tomber, prirent la fuite. Autrement, c'était fait de moi, car je n'avais plus d'armes pour me défendre. On peut voir par là que notre vie, avec toute sa splendeur, était remplie de périls et de difficultés, et demandait beaucoup de talent et de courage pour réussir. Et souvent, quand nous étions pleinement en veine de succès, Nous étions soudain chassés du théâtre de nos exploits par quelque caprice d'un prince régnant, quelque intrigue d'une maîtresse désappointée ou quelque querelle avec le ministre de la police. Si ce dernier n'était pas acheté ou influencé, rien n'était plus commun pour nous que de recevoir un ordre subi de départ, et ainsi, forcément, nous menions une vie errante et décousue. Si les gains d'une pareille vie sont, comme j'ai dit, très grands, les dépenses aussi sont énormes. Notre extérieur et notre train de maison étaient trop magnifiques pour l'esprit étroit de Pippi, qui se récriait toujours sur mon extravagance, quoique obligé d'avouer que sa propre mesquinerie et sa parcimonie n'auraient jamais obtenu les grandes victoires que ma générosité avait remportées. Malgré tout notre succès, notre capital n'était pas très grand. Ce que nous avions dit au duc de Courlande, par exemple, était pure fanfaronnade, du moins en ce qui concernait les 200 000 florins à 3 mois. Nous n'avions pas de crédit et pas d'autre argent que celui qui était sur la table, et nous eussions été obligés de fuir si son Altesse eût gagné et accepté nos billets. Parfois aussi nous étions rudement atteints. Une banque est presque une certitude. Mais de temps en temps il survient un mauvais jour, et les hommes qui ont du courage dans la bonne chance devraient au moins en montrer dans la mauvaise. De ces deux tâches, croyez-moi, la première est la plus difficile. Une de ces mauvaises chances nous arriva sur le territoire du duc de Baden à Mannheim. Pippi, qui était toujours aux aguets pour nous trouver de la besogne, offrit de faire une banque à l'auberge où nous étions descendus et où soupaient les officiers des cuirassiers du duc. En conséquence, on organisa un petit jeu et quelques misérables écus et louis changèrent de main. Plutôt, je crois, à l'avantage de ces pauvres gentilshommes de l'armée, qui certainement sont les plus pauvres diables qu'il y ait sous le soleil. Mais le malheur voulut qu'une couple de jeunes étudiants de l'université de Heidelberg, qui étaient venus à Mannheim pour toucher leur trimestre, furent présentés à la table et, n'ayant jamais joué auparavant, commencèrent par gagner, comme c'est toujours le cas. Le malheur voulut aussi qu'ils fussent gris, et contre l'ivresse, j'ai souvent remarqué que les meilleurs calculs au jeu échouent entièrement. Ils jouaient de la manière la plus insensée, et pourtant ils gagnaient toujours. Chaque carte pour laquelle ils partaient leur était favorable. Ils nous avaient gagné 100 louis en 10 minutes, et voyant que Pippi devenait de mauvaise humeur et que la chance était contre nous, j'étais d'avis de fermer la banque pour ce soir-là, disant que nous n'avions joué que par plaisanterie et que maintenant nous en avions assez. Mais Pippi, qui s'était querellé avec moi dans la journée, avait mis dans sa tête de persister, et le résultat fut que les étudiants continuèrent de jouer et de gagner. Puis ils prêtèrent de l'argent aux officiers qui se mirent à gagner aussi. Et de cette ignoble manière, dans une salle de taverne empuantie de fumée de tabac, sur une table de sapin tachée de bière et de liqueur, contre un tas de subalternes affamés et une paire d'étudiants imberbes, 3 des plus habiles et renommés joueurs de l'Europe perdirent 1 700 louis. J'en rougis encore quand j'y songe. C'était Charles XII ou Richard Cœur de Lion tombant devant une misérable forteresse et sous une main inconnue, comme l'a écrit mon ami M. Johnson, et c'était en réalité une honteuse défaite. Et ce ne fut pas la seule. Quand nos pauvres vainqueurs furent partis, éblouis du trésor que la fortune avait jeté devant leurs pas, un de ses étudiants s'appelait le baron de Klotz, peut-être celui qui plus tard perdit sa tête à Paris, Pippi recommença la querelle du matin, et de très gros mots furent échangés entre nous. Entre autres choses que je me rappelle, je le terrassai d'un coup d'escabeau et je voulais le jeter par la fenêtre. Mais mon oncle, qui était de sang-froid et qui avait fait maigre avec sa solennité habituelle, s'interposa entre nous et une réconciliation eut lieu, Pippi faisant des excuses et convenant d'avoir eu tort. J'aurais dû toutefois douter de la sincérité de ce perfide Italien. Vraiment, comme je n'avais jamais cru un mot de ce qu'il disait, je ne sais pas pourquoi je fus assez sot pour me fier cette fois et aller me coucher en lui laissant la clé de notre caisse. Elle contenait, après notre perte avec les cuirassiers, en billets et argent, près de 8 000 livres sterling. Pippi insista pour que notre réconciliation fût ratifiée avec un bol de vin chaud, et je ne doute pas qu'il n'y ait mis quelques drogues soporifiques, car mon oncle et moi, nous ne nous réveillâmes que très tard le lendemain matin, et avec de violents maux de tête et la fièvre. Nous ne nous levâmes pas avant midi. Il était parti depuis 12 heures, laissait notre trésor vide, et derrière lui, une sorte de calcul par lequel il s'efforçait d'établir que c'était sa part des profits et que toutes les pertes avaient été encourues sans son consentement. Ainsi, après 18 mois, il fallait recommencer sur nouveaux frais. Mais étais-je abattu? Non. Notre garde-robe valait encore une forte somme d'argent, car les gentilshommes en ce temps-là ne s'habillaient pas comme des clercs de paroisse. Et une personne de qualité portait souvent, habits et joyaux, de quoi faire la fortune d'un garçon de boutique. Sans nous plaindre un seul instant, sans une seule parole d'humeur, le caractère de mon oncle à cet égard était admirable, et sans laisser connaître le secret de notre perte à âme qui vive, nous mîmes en gage les 3/4 de nos joyaux et de nos habits chez Moïse Love, le banquier, et avec cet argent et celui qui nous restait en poche, le tout montant à un peu moins de 800 louis, nous rentrâmes dans la lice. Chapitre 10. Retour de Veynes. Je ne vais point donner à mes lecteurs plus de détails sur ma vie de joueur que je ne leur en ai donné sur ma carrière militaire. Je pourrais, si je voulais, remplir des volumes d'anecdotes de cette espèce. Mais, à ce compte, mon histoire ne serait pas finie de plusieurs années, et qui sait si d'un jour à l'autre je ne serais pas forcé de m'arrêter. J'ai la goutte, des rhumatismes, la gravelle et le foie malade. J'ai 2 ou 3 blessures dans le corps qui se rouvrent de temps en temps et me causent des souffrances intolérables, sans compter 100 autres symptômes de dissolution. Tels sont les effets du temps, de la maladie et du bien-vivre sur une des plus vigoureuses constitutions et un des plus beaux physiques qu'on ait jamais vus. Ah, je ne souffrais d'aucun de ces maux en 66. Il n'y avait alors personne en Europe plus gai d'humeur, plus brillant de sa personne, que le jeune Redmond Barry. Avant la trahison de ce gueux de pipi, j'avais visité plusieurs des meilleures cours de l'Europe, surtout les plus petites, où le jeu est protégé et où les professeurs de cette science sont toujours les bienvenus. Dans les principautés ecclésiastiques du Rhin, nous étions particulièrement bien accueillis. Je n'ai jamais connu de cour plus belle ou plus gaie que celle des électeurs de Trèves et de Cologne, où il y eut plus d'éclat et d'entrain qu'à Vienne, et surtout que dans cette misérable cour, ou plutôt caserne, de Berlin. La cour de l'archiduchesse gouvernante des Pays-Bas était également un royal endroit pour nous autres chevaliers du cornet et galants adorateurs de la fortune. Tandis que parmi ces ladres de républicains hollandais, ou ces mendiants de républicains suisses, il était impossible à un gentilhomme de gagner sa vie sans être molesté. Après notre mésaventure de Mannheim, mon oncle et moi nous partîmes pour le duché de X. Le lecteur pourra trouver assez facilement l'endroit, mais je ne me soucie pas d'imprimer tout au long les noms de quelques illustres personnes, dans la société desquelles je tombais alors, et parmi lesquelles je jouais un rôle dans une très étrange et tragique aventure. Il n'était pas de cour en Europe où les étrangers fussent mieux reçus qu'à celle du noble duc de X. Il n'en était pas où l'on fût plus avide de plaisir et où on en jouit plus splendidement. Le prince n'habitait pas sa capitale de S, mais imitant sous tous les rapports le cérémonial de la cour de Versailles, il s'était bâti un magnifique palais à quelques lieues de là, et autour de son palais une superbe ville aristocratique, entièrement habitée par sa noblesse et par les officiers de sa cour somptueuse. Le peuple était assez durement pressuré, il est vrai, pour subvenir à cette splendeur, car les états de son Altesse étaient petits, et aussi vivait-il sagement à l'écart, dans une sorte d'imposante retraite, se montrant rarement dans sa capitale, et ne voyant d'autres visages que ceux de ses fidèles serviteurs et officiers. Son palais et ses jardins de Ludwigslust étaient exactement sur le modèle français. 2 fois par semaine, il y avait réception à la cour, et grand gala 2 fois par mois. Il y avait le plus bel opéra après celui de la France, et un ballet sans égal en splendeur pour lequel son Altesse, grand amateur de musique et de danse, dépensait des sommes prodigieuses. C'est peut-être parce que j'étais jeune alors, mais je crois n'avoir jamais vu un tel assemblage de beautés brillantes qu'il en figurait sur le théâtre de la cour, dans les grands ballets mythologiques qui étaient alors à la mode, et où vous voyez Mars en escarpins à talons rouges et en perruque, et Vénus avec des mouches et des paniers. Ils disent que ce costume est inexact, et ils l'ont changé depuis. Mais pour ma part, je n'ai jamais vu de Vénus plus adorable que la Coralie, qui était la principale danseuse, et je ne trouvais rien à redire aux nymphes ses suivantes, avec leurs robes à queue, leur barbe et leur poudre. Ces représentations avaient lieu deux fois la semaine, après quoi quelques grands officiers de la cour donnaient une soirée et un brillant souper, et les cornets retentissaient de tous côtés, et tout le monde jouait. J'ai vu 70 tables de jeu dressées dans la grande galerie de Ludwigslust, outre la banque de Pharaon, où le duc lui-même daignait venir jouer et gagnait ou perdait avec une grandeur vraiment royale. Ce fut là que nous allâmes après le malheur de Mannheim. La noblesse de la cour voulut bien dire que notre réputation nous avait précédés, et les deux gentilshommes furent bien accueillis. Dès la première soirée, nous perdîmes à la cour 740 louis sur nos 800. À la suivante, à la table du maréchal de la cour, je les regagnais avec 1300 de plus. Vous pensez bien que nous ne laissâmes savoir à personne combien nous avions été près de notre ruine la fois d'avant. Mais, au contraire, je me fis bien venir d'un chacun par la gaieté avec laquelle je perdis, et le ministre des Finances lui-même m'escompta un billet de 400 ducats, tiré par moi sur mon intendant de Ballybarry Castle, dans le royaume d'Irlande, billet que je gagnais à son excellence le lendemain avec une somme considérable d'argent comptant. Dans cette noble cour, tout le monde était joueur. Vous voyez dans les antichambres ducales les laquais à l'œuvre avec leurs sales jeux de cartes. Les cochers et les porteurs de chaises jouaient dans la cour, tandis que leurs maîtres jouaient dans les salons au-dessus. Jusqu'aux filles de cuisine et aux marmitons, à ce qu'on me dit, avaient une banque, où l'un d'eux, un confiseur italien, fit une belle fortune. Il acheta plus tard un marquisat romain, et son fils a figuré comme un des plus fashionables des illustres étrangers alors à Londres. Les pauvres diables de soldats jouaient leur paye, quand ils en avaient, ce qui était rare. Et je ne crois pas qu'il y eût un officier, dans aucun des régiments de la garde, qui n'eût des cartes dans sa poche, et qui oublia plus ses dés que son nœud d'épée. Parmi de pareils gens, c'était corsaire contre corsaire. Ce que vous appelez jouer loyalement eût été folie. Messieurs de Ballybarry eussent été de grands sots, en effet, de se poser en pigeon dans un tel nid d'éperviers. Il n'y avait que des hommes de courage et de génie qui pussent vivre et prospérer dans une société où chacun était hardi et habile. Et là, mon oncle et moi, nous tâmes notre place, oui, et plus que notre place. Son Altesse le Duc était veuf, ou plutôt, depuis la mort de la duchesse régnante, il avait contracté un mariage morganatique avec une dame qu'il avait anoblie, et qui considérait comme un compliment, telle était la moralité de l'époque, d'être appelée la Dubarry du Nord. Il s'était marié très jeune, et son fils, le prince héréditaire, était, on peut le dire, le souverain réel de l'État, car le duc régnant avait plus de goût pour le plaisir que pour la politique, et aimait infiniment mieux causer avec son grand veneur ou le directeur de son opéra qu'avec des ministres et des ambassadeurs. Le prince héréditaire, que je nommerai le prince Victor, avait un caractère tout différent de celui de son auguste père. Il avait fait la guerre de la succession et celle de 7 ans, avec beaucoup d'honneur au service de l'impératrice, était d'une humeur sévère, paraissait rarement à la cour, excepté quand le cérémonial l'y appelait, et vivait presque seul dans son aile du palais, où il se consacrait aux études les plus graves, étant grand astronome et chimiste. Il avait la fureur, si commune alors en Europe, de courir après la pierre philosophale. Et mon oncle regrettait souvent de n'avoir aucune teinture de chimie, comme Balsamo, qui avait pris le nom de Cagliostro, Saint-Germain et autres individus qui avaient obtenu de très grosses sommes du duc Victor en l'aidant dans sa recherche du grand secret. Ses amusements étaient de chasser et de passer des revues. Sans lui et sans l'assistance qu'il prêtait à son bonhomme de père, l'armée aurait joué aux cartes toute la journée. Et ainsi il était bien que le soin de gouverner fut laissé à ce prudent prince. Le duc Victor avait 50 ans et sa femme, la princesse Olivia, en avait à peine 23. Ils étaient mariés depuis 7 ans et, dans les premières années de leur union, la princesse lui avait donné un fils et une fille. La sévérité de mœurs et de manières, l'air sombre et gauche du mari, était peu fait pour plaire à la brillante et séduisante jeune femme qui avait été élevée dans le Midi. Elle était de la maison ducale de Hesse, qui avait passé 2 ans à Paris sous la tutelle de mesdames, filles de Sa Majesté très chrétienne, et qui était l'âme et la vie de la cour de X, la gaieté en personne, l'idole de son auguste beau-père, et même de toute la cour. Elle n'était pas belle, mais charmante, pas spirituelle, mais charmante encore dans sa conversation comme dans sa personne. Elle était prodigue au-delà de toute mesure, si fausse que vous ne pouviez vous fier à elle. Mais ses faiblesses mêmes étaient plus attrayantes que les vertus des autres femmes, son égoïsme plus ravissant que la générosité des autres. Je n'ai jamais connu de femme que ses défauts aient rendu si séduisante. Elle ruinait les gens, et cependant ils l'aimaient tous. Mon vieil oncle l'a vu tricher à l'ombre et lui a laissé gagner 400 louis sans résister le moins du monde. Ses caprices avec les officiers et les dames de sa maison étaient incessants, mais il l'adorait. Elle était la seule de la famille régnante que le peuple vénéra. Elle ne sortait jamais sans que son carrosse fût suivi avec acclamation, et, pour être généreuse envers ses braves gens, elle empruntait à ses pauvres filles d'honneur leur dernier sou qu'elle ne leur rendait jamais. Dans les premiers temps, son mari avait été aussi fasciné par elle que le reste du monde. Mais ses caprices l'avaient jeté dans de terribles explosions d'humeur et dans un éloignement qui, bien qu'interrompu par des retours de tendresse presque insensés, n'en existait pas moins. Je parle de son Altesse royale en toute candeur et admiration, quoique je pense être excusable de la juger plus sévèrement, vu l'opinion qu'elle avait de moi. Elle disait que le vieux monsieur de Balibari était un gentilhomme accompli et que le jeune avait des manières de courtier. Le monde a professé une opinion différente, et je puis me permettre d'enregistrer ici cette sentence qui est presque la seule qui ait été portée contre moi. D'ailleurs, elle avait un motif de ne point m'aimer, comme vous allez le savoir. 5 ans à l'armée, une longue expérience du monde avait, avant cette époque, chassé toutes ces idées romanesques sur l'amour que j'avais en commençant la vie. Et j'avais résolu, comme il convient aux gentilshommes, il n'y a que les gens de bas étage qui se marient par pure affection, de consolider ma fortune par un mariage. Dans le cours de nos pérégrinations, mon oncle et moi, nous avions fait plusieurs tentatives pour arriver à ce but. Il était survenu de nombreux désappointements qui ne valent pas la peine d'être mentionnés ici, mais qui m'avaient empêché jusqu'alors de trouver un parti qui me parut digne d'un homme de ma naissance, de mon mérite et de mon physique. Les dames sur le continent n'ont pas l'habitude de se laisser enlever, comme c'est la coutume en Angleterre, coutume qui a été bien profitable à beaucoup d'honorables gentilshommes de mon pays. Les tuteurs et les cérémonies et des difficultés de toute espèce se mettent à la traverse. Le véritable amour a ses coudées franches, et une pauvre femme ne peut donner son honnête cœur au galant homme qui l'a conquis. Tantôt c'était des douaires qu'on demandait, tantôt c'était ma généalogie et mes parchemins qui n'étaient pas satisfaisants, quoique j'eusse un plan et un état censier des terres de Balibari, et la généalogie de la famille jusqu'au roi Brian Bonny ou Barry, admirablement tracée sur papier. Tantôt c'était une jeune fille qui s'était enfuie dans un couvent, juste comme elle allait tomber dans mes bras. Une autre fois, une riche veuve des Pays-Bas était sur le point de me faire maître et seigneur d'un noble domaine en Flandre, quand arrive un ordre de la police qui me donne 1 heure pour sortir de Bruxelles et consigne mon éploré dans son château. Mais à X, j'eus l'occasion de jouer une belle partie, et je l'aurais gagnée, qui plus est, sans la terrible catastrophe qui renversa ma fortune. Dans la maison de la princesse héréditaire était une demoiselle de 19 ans qui possédait la plus grande fortune de tout le duché. La comtesse Ida, tel était son nom, était fille d'un ancien ministre et favorite de son Altesse le duc de X et de la duchesse, qui lui avait fait l'honneur d'être ses parrains et qui, à la mort de son père, l'avait prise sous leur auguste tutelle et protection. À 16 ans, elle avait été amenée de son château, où, jusqu'à cette époque, on lui avait permis de résider, et avait été placée auprès de la princesse Olivia en qualité de fille d'honneur. La tante de la comtesse Ida, qui dirigeait sa maison pendant sa minorité, l'avait follement laissé contracter un attachement pour son cousin Germain, sous-lieutenant sans le sou, dans un des régiments d'infanterie du duc, et qui s'était flatté d'enlever ce riche butin. Et s'il n'avait pas été un véritable idiot, en effet, ayant l'avantage de l'avoir constamment, de n'avoir aucun rival près de lui, et avec l'intimité qu'autorisait leur parenté, il aurait pu, par un mariage secret, s'assurer de la jeune comtesse et de ses possessions. Mais il s'y prit si bêtement qu'il lui permit de quitter sa retraite, de venir pour un an à la cour et d'entrer dans la maison de la princesse Olivia. Et alors, que fait mon jeune gentilhomme? Un beau jour, il paraît au lever du duc, avec ses épaulettes ternies et son habit râpé, et il demande en forme à son Altesse, comme au tuteur de la jeune personne, la main de la plus riche héritière de ses états. La faiblesse de ce brave prince était telle que, comme la comtesse Ida elle-même était aussi engouée de cette union que son niais cousin, son Altesse aurait peut-être fini par la permettre si la princesse Olivia n'eût été amenée à intervenir et à obtenir du duc un veto péremptoire aux espérances du jeune homme. La cause de ce refus était encore inconnue, il n'était question d'aucun autre prétendant à la main de la jeune personne, et les amants continuaient à correspondre quand, tout à coup, le lieutenant fut dirigé sur un des régiments que le prince était dans l'habitude de vendre aux grandes puissances alors en guerre. Ce commerce militaire était une partie principale des revenus de son Altesse et autres princes en ce temps-là, et leur liaison fut ainsi brusquement brisée. Il était étrange que la princesse Olivia eût pris ce parti contre une jeune personne qui avait été sa favorite. Car d'abord, avec ses idées romanesques et sentimentales qu'ont presque toutes les femmes, elle avait en quelque sorte encouragé la comtesse Ida et son amant sans le sou. Mais maintenant, elle se tourna subitement contre eux, et après avoir aimé la comtesse comme elle l'avait fait, elle la poursuivit de sa haine avec cet art ingénieux qui n'appartient qu'aux femmes. Il n'y eut pas de borne au raffinement de ses tortures, au venin de sa langue, à l'amertume de ses sarcasmes et de ses dédains. Quand j'arrivai à la cour de X, les jeunes gens y avaient nommé cette jeune personne la dumme Gräfin, la stupide comtesse. Elle était généralement silencieuse, belle, mais pâle, l'air bête et gauche, ne prenant aucun intérêt aux amusements du lieu, et paraissant au milieu des festins aussi renfrognée que la tête de mort que les Romains, dit-on, avaient coutume de placer sur leur table. Le bruit courut qu'un jeune gentilhomme d'extraction française, le chevalier de Magny, écuyer du duc régnant et présent à Paris quand la princesse Olivia y avait été mariée par procuration, était le futur destiné à la riche comtesse Ida. Mais il n'avait été fait encore aucune déclaration officielle à cet égard. On parlait tout bas d'une sombre intrigue, et ses propos reçurent plus tard une effrayante confirmation. Le chevalier de Magny était le petit-fils d'un vieil officier général au service du duc, le baron de Magny. Le père du baron avait quitté la France lors de l'expulsion des protestants, à la révocation de l'édit de Nantes, et pris du service à X, où il était mort. Son fils lui succéda. Tout à fait différent de la plupart des gentilshommes français que j'ai connus, c'était un sévère et froid calviniste, rigide dans l'accomplissement de son devoir, réservé de manière, fréquentant peu la cour, et ami intime et favori du duc Victor, auquel il ressemblait de caractère. Le chevalier, son petit-fils, était un véritable Français. Il était né en France, où son père occupait un poste diplomatique au service du duc. Il s'était mêlé à la gaie société de la plus brillante cour du monde, et avait des histoires sans fin à nous faire, des plaisirs des petites maisons, des secrets du parc aux cerfs, et de toutes les joyeuses folies de Richelieu et de ses compagnons. Il s'était presque ruiné au jeu, comme son père avant lui. Car, échappé à la surveillance du sévère vieux baron en Allemagne, le fils et le petit-fils avaient mené la vie la plus désordonnée. Il revint de Paris bientôt après l'ambassade, qui avait été envoyée à l'occasion du mariage de la princesse, fut mal reçu par son grand-père, qui, néanmoins, paya ses dettes encore une fois et lui procura cette position dans la maison du duc. Le chevalier de Magny devint un grand favori de son auguste maître. Il rapportait les modes et les gaietés de Paris. Il était l'ordonnateur de tous les bals et mascarades, le recruteur de tous les danseurs de ballet, et de beaucoup le plus brillant et le plus magnifique jeune seigneur de la cour. Après que nous eûmes été quelques semaines à Ludwigslust, le vieux baron de Magny essaya de nous faire renvoyer du duché. Mais sa voix ne fut pas assez forte pour étouffer celle du public, et le chevalier de Magny particulièrement se déclara pour nous auprès de son Altesse quand la question fut débattue devant elle. Le chevalier n'avait point perdu son amour du jeu. Il fréquentait régulièrement notre banque, où il joua pendant quelque temps avec assez de bonheur, et où, lorsqu'il commença à perdre, il paya avec une ponctualité surprenante pour tous ceux qui connaissaient la modicité de ses ressources et la splendeur du train qu'il menait. Son Altesse, la princesse Olivia, aimait aussi beaucoup le jeu. Dans la demi-douzaine de fois que nous tîmes une banque à la cour, je pus remarquer sa passion. Je pus voir, c'est-à-dire mon vieil oncle, toujours de sang-froid, put voir, bien davantage. Il y avait des intelligences entre M. de Magny et cette illustre dame. « Si son Altesse n'est pas amoureuse du petit Français, me dit mon oncle un soir après le jeu, que je perde mon dernier œil. » « Et après, monsieur ? Lui dis-je. « Après ? Reprit mon oncle en me regardant fixement. « Êtes-vous assez innocent pour ne pas pouvoir répondre vous-même à cet « après »? Votre fortune est faite, si vous voulez y aider, et nous pouvons ravoir les terres de Paris dans 2 ans, mon garçon. »« Comment cela ? Demandai-je. M'y perdant toujours. Mon oncle dit sèchement, « Poussez Magny à jouer. Ne vous occupez pas de savoir s'il payera. Acceptez ses billets. Plus il devra, mieux ce sera. Mais par-dessus tout, faites-le jouer. » « Il ne pourra pas payer un shilling, répliquai-je. Les Juifs n'escompteront pas ses billets à 100%. Tant mieux, vous verrez que nous en tirerons parti, répondit le vieux gentilhomme. Et je dois avouer que le plan qu'il développa était charmant, habile et loyal. Je devais faire jouer Magny. À cela, il n'y avait pas grande difficulté. Nous étions intimes ensemble, car il était aussi bon chasseur que moi, et nous nous étions pris d'amitié l'un pour l'autre, et s'il voyait un cornet, il était impossible de l'empêcher de mettre la main dessus. Il y allait aussi naturellement qu'un enfant à des sucreries. Au commencement, il me gagna, puis il se mit à perdre. Alors je jouais de l'argent, contre des bijoux qu'il apporta, des joyaux de famille, disait-il, et vraiment d'une valeur considérable. Il me demanda toutefois de n'en pas disposer dans le duché, et je lui donnai et tins ma parole à cet effet. Des bijoux, il en vint à jouer sur billets, et comme on ne lui permettait pas de jouer à la cour et en public à crédit, il était enchanté d'avoir une occasion de satisfaire à crédit sa passion favorite. Je l'ai eu pendant des heures à mon pavillon, que j'avais décoré à la mode orientale, très splendidement, secouant les dés jusqu'à l'heure de son service à la cour, et nous passions jour sur jour de cette manière. Il m'apporta d'autres bijoux, un collier de perles, une broche ancienne en émeraude, et autres joyaux en compensation de ses pertes, car je n'ai pas besoin de dire que je n'aurais pas joué avec lui tout ce temps s'il avait gagné. Mais au bout d'une semaine environ, la chance se tourna contre lui, et il devint mon débiteur pour une somme prodigieuse. Je ne me soucie pas d'en dire le chiffre. Elle était telle que je ne pensais pas qu'un jeune homme pût jamais la payer. Pourquoi donc l'avoir joué? Pourquoi perdre des journées à jouer tête à tête avec un insolvable quand il y avait une besogne bien plus profitable à faire ailleurs? Mon motif, je le confesse hardiment. Je voulais gagner à M. de Magny non pas son argent, mais sa future, la comtesse Ida. Qui peut dire que je n'avais pas le droit d'user de toute espèce de stratagème dans cette affaire d'amour? Ou plutôt, pourquoi dire amour? J'en voulais aux richesses de la demoiselle. Je l'aimais tout autant que l'aimait Magny. Je l'aimais tout autant que cette pudibonde vierge de 17 ans aime un vieux lord de 70 qu'elle épouse. Je suivais la pratique du monde en ceci, résolu que j'étais à assurer ma fortune par ce mariage. J'avais coutume de me faire donner par Magny, après ses pertes, une lettre amicale de reconnaissance conçue à peu près en ces termes. « Mon cher monsieur de Balibari, je reconnais avoir perdu contre vous aujourd'hui, au lansquenet, ou au piquet, ou à la chance, selon le cas, j'étais son maître à tous les jeux du monde, la somme de 300 ducats, et je regarderai comme une grande bonté de votre père de vouloir bien laisser la dette en suspens jusqu'à une époque ultérieure où elle vous sera payée par votre très reconnaissant et humble serviteur. Avec les bijoux qu'il m'apportait, je prenais aussi la précaution, mais cette idée-ci était de mon oncle, elle était fort bonne, d'avoir une sorte de facture et une lettre qui me priait de recevoir les joyaux en acompte sur une somme d'argent qu'il me devait. Quand je l'eus mis dans la position que je jugeais favorable à mes desseins, je lui parlai avec candeur et sans réserve, comme on se parle entre hommes du monde. « Je ne vous ferai pas, mon cher garçon, lui dis-je, le mauvais compliment de supposer que vous vous attendiez à ce que nous continuions de jouer plus longtemps de la sorte, et à ce que j'aie aucune satisfaction de posséder plus ou moins de chiffons de papier portant votre signature et une série de billets que je vous sais incapable de jamais payer. Ne prenez pas un air farouche ni fâché, car vous savez que Redmond Barry est plus fort que vous à l'épée. D'ailleurs, je ne serai point assez bête pour me battre avec un homme qui me doit tant d'argent. Mais écoutez avec calme ce que j'ai à vous proposer. Vous avez été très expansif avec moi pendant notre intimité du mois dernier, et je connais parfaitement toutes vos affaires personnelles. Vous avez donné votre parole d'honneur à votre grand-père de ne jamais jouer sur parole, et vous savez comment vous l'avez tenu, et qu'il vous déshéritera s'il apprend la vérité. Bien plus, supposez qu'il meure demain, sa fortune n'est pas suffisante pour payer la somme que vous me devez. Et si vous m'abandonniez tout, vous seriez un mendiant et un banqueroutier qui plus est. Son Altesse, la princesse Olivia, ne vous refuse rien. Je ne demanderai pas pourquoi, mais permettez-moi de dire que je savais le fait avant que nous eussions commencé à jouer ensemble. Voulez-vous être fait baron, chambellan, avec le grand cordon de l'ordre, s'écria tout haletant le pauvre garçon, la princesse peut tout sur le duc. Je n'aurai pas de répugnance, dis-je, pour le cordon jaune et la clé d'or, quoiqu'un gentilhomme de la maison de Balibari se soucie peu des titres de la noblesse allemande. Mais ce n'est pas là ce qu'il me faut. Mon bon chevalier, vous n'avez pas eu de secret pour moi. Vous m'avez dit la difficulté que vous aviez eue à décider la princesse Olivia à consentir au projet de votre union avec la greffine Ida, que vous n'aimez pas. Je sais fort bien qui vous aimez. Monsieur de Balibari, dit le chevalier déconfit. Il n'en put dire davantage. La vérité commençait à lui apparaître. Vous commencez à comprendre, continuai-je. Son Altesse la princesse, je dis ceci d'un ton sarcastique, ne sera pas très fâchée, croyez-moi, si vous rompez votre union avec la stupide comtesse. Je ne suis pas plus admirateur que vous de cette dame, mais j'ai besoin de sa fortune. C'est cette fortune que j'ai jouée avec vous, et je l'ai gagnée. Et je vous donnerai vos billets et 5 000 ducats le jour où je l'aurai épousée. Le jour où j'épouserai, moi, la comtesse, répondit le chevalier, pensant me tenir, je serai en état de me procurer de quoi payer 10 fois ma dette. C'était vrai, car les propriétés de la comtesse valaient près d'un 500 000 de livres sterling, et alors je m'acquitterai envers vous. En attendant, si vous m'ennuyez de vos menaces, ou que vous m'insultiez encore comme vous avez fait, j'userai de cette influence que vous me reconnaissez pour vous faire chasser du duché comme vous avez été chassé des Pays-Bas l'année dernière. Je sonnai le plus tranquillement du monde. « Zamor, dis-je à un grand nègre habillé à la turque qui me servait, quand vous entendrez sonner une seconde fois, vous porterez ce paquet au maréchal de la cour, celui-ci à son excellence le général de Magny, et celui-ci vous le remettrez à un des écuyers de son Altesse le prince héréditaire. Attendez dans l'antichambre et ne faites pas ces commissions avant que je sonne de nouveau. » L'homme noir s'étant retiré, je me tournai vers M. de Magny et dis « Chevalier, le premier paquet contient une lettre de vous à moi, déclarant votre solvabilité et me promettant solennellement de payer les sommes que vous me devez. Elle est accompagnée d'un document de moi, car je m'attendais à quelque résistance de votre part, établissant que mon honneur a été mis en question et demandant que ce papier soit placé sous les yeux de Son Altesse, votre auguste maître. Le second paquet est pour votre grand-père. Il contient la lettre dans laquelle vous exposez que vous êtes son héritier et demande la confirmation du fait. Le dernier paquet, adressé à Son Altesse le Duc héréditaire, ajoutai-je en le regardant très sévèrement, renferme l'émeraude de Gustave Adolphe qu'il a donnée à la princesse et que vous m'avez remise en gage comme un joyau de famille à vous. Votre influence sur la princesse doit être grande, en effet, dis-je en concluant, puisque vous avez pu lui extorquer un joyau tel que celui-là, et puisque vous lui avez, afin de payer vos dettes de jeu, fait livrer un secret d'où dépend votre tête à tous les deux. Scélérat, dit le Français tout éperdu de rage et de terreur, voudriez-vous impliquer la princesse dans tout ceci? Monsieur de Magny, répondis-je en ricanant, non, je dirais que vous avez volé ce joyau. C'était mon opinion qu'il l'avait fait, et que la malheureuse et infatuée princesse n'avait eu connaissance de ce vol que longtemps après qu'il avait été commis. La manière dont nous étions venus à connaître l'histoire de l'émeraude est assez simple. Comme nous avions besoin d'argent, car le temps que je passais avec Magny faisait que notre banque était fort négligée, mon oncle avait porté les bijoux de Magny à Mannheim pour les mettre en gage. Le juif qui prêta de l'argent dessus savait l'histoire de la pierre en question. Et quand il demanda comment la princesse avait pu s'en dessaisir, mon oncle, fort habilement, prit l'histoire où il la trouvait, dit que Son Altesse aimait beaucoup le jeu, qu'il ne lui était pas toujours commode de payer, et que c'était ainsi que l'émeraude était venue dans nos mains. Il la rapporta sagement à S, et quant aux autres bijoux que le chevalier nous avait donnés en gage, il n'avait rien qui les distinguât. Aucune question n'avait été faite à leur sujet jusqu'à ce jour. Et non seulement je ne savais pas qu'ils vinssent de Son Altesse, mais je ne puis aujourd'hui encore faire que des conjectures à leur égard. L'infortuné jeune homme devait avoir l'âme bien lâche de n'avoir pas, quand je l'accusais de vol, fait usage de mes deux pistolets qui se trouvaient par hasard devant lui pour envoyer hors de ce monde et son accusateur et sa misérable personne. Avec une imprudence et une insouciance si déplorables de sa part et de celle de la malheureuse femme qui s'était oubliée pour ce triste gredin, il aurait dû savoir que la découverte était inévitable. Mais il était écrit que cette terrible destinée s'accomplirait. Au lieu de finir en homme, il fila doux devant moi, tout à fait démoralisé, et se jetant sur le sofa, fondit en larmes, en appelant d'un air effaré tous les saints à son aide, comme s'il pouvait s'intéresser au sort d'un tel misérable. Je vis que je n'avais rien à craindre de lui, et rappelant Zamor, mon nègre, je lui dis que je porterai moi-même les paquets que je remis dans mon secrétaire, et mon but étant ainsi atteint, j'agis, comme je fais toujours, généreusement envers lui. Je dis que, pour plus de sûreté, j'enverrai l'émeraude hors du pays, mais que je m'engagerai sur l'honneur à la rendre à la duchesse, sans aucune condition pécuniaire, le jour où elle m'obtiendrait le consentement du souverain à mon union avec la comtesse Ida. Ceci expliquera assez clairement, je m'en flatte, le jeu que je jouais. Et bien que quelques rigides moralistes en puissent contester la loyauté, je dis que tout est légitime en amour, et que des hommes aussi pauvres que moi ne peuvent pas se permettre de tant faire les difficiles sur les moyens de réussir dans la vie. Les grands et les riches sont accueillis avec un sourire sur le grand escalier du monde. Celui qui est pauvre, mais ambitieux, doit grimper par-dessus le mur ou se frayer des pieds et des mains un passage par l'escalier de derrière ou, pardi, se hisser par quelque conduit de la maison, si sale et si étroit qu'il puisse être, pourvu qu'il mène en haut. Le paresseux sans ambition prétend que la chose n'en vaut pas la peine, se refuse entièrement à la lutte et se décerne le nom de philosophe. Je dis que c'est un poltron sans énergie. À quoi est bonne la vie sans l'honneur? Et l'honneur est si indispensable que nous devons l'acquérir n'importe comment. La manière dont Magny devait opérer sa retraite fut proposée par moi et fut réglée de façon à ménager la délicatesse des deux parties. D'après mon ami, Magny prit à part la comtesse Ida et lui dit « Madame, quoique je ne me sois jamais déclaré votre adorateur, le comte et vous avez eu des preuves suffisantes de mon estime pour vous. Et ma demande, je le sais, eût été appuyée par son Altesse, votre auguste tuteur. Je sais que le gracieux désir du duc est que mes attentions soient reçues favorablement. Mais comme le temps n'a pas paru modifier votre attachement pour un autre, et que j'ai trop de fierté pour forcer une dame de votre nom et de votre rang à s'unir avec moi contre son gré, le meilleur plan est que je vous fasse, pour la forme, une proposition non autorisée par son Altesse, que vous y répondiez, comme je regrette de penser que votre cœur vous le dicte, négativement. Sur quoi je me désisterai ainsi, en forme, de mes prétentions sur vous, en déclarant qu'après un refus, rien au monde, pas même le désir du duc, ne me déciderait à y persévérer. La comtesse Ida pleura presque en entendant ces paroles de M. de Magny, et elle eut des larmes dans les yeux, dit-il, en lui prenant la main pour la première fois et en le remerciant de la délicatesse de cette démarche. Elle savait peu que le Français était incapable de cette sorte de délicatesse et que la gracieuse manière dont il se retirait était de mon invention. Aussitôt qu'il se fut retiré, ce fut à moi de me mettre en avant, mais prudemment et doucement, de façon à ne point alarmer la dame, et cependant avec fermeté, de façon à la convaincre de l'impossibilité de s'unir avec son piètre amoureux, le sous-lieutenant. La princesse Olivia fut assez bonne pour exécuter en ma faveur cette partie nécessaire du plan et pour avertir solennellement la comtesse Ida que, bien que M. de Magny se fût désisté de ses prétentions sur elle, son auguste tuteur n'en voudrait pas moins la marier comme il le jugerait convenable et qu'elle devait oublier à jamais son amoureux au cou de Percé. Au fait, je ne puis concevoir comment un si piètre drôle avait jamais eu l'audace de se proposer pour elle. Sa naissance, assurément, était bonne, mais quels autres titres avait-il? Quand le chevalier de Magny se retira, nombre d'autres prétendants, vous pouvez bien le penser, se présentèrent, et parmi eux votre très humble serviteur, le cadet de Balibari. Il y eut à cette époque un carrousel, à l'imitation des anciens tournois de la chevalerie, dans lequel les chevaliers joutaient l'un contre l'autre à la lance ou couraient la bague. Et en cette occasion, j'étais revêtu d'un magnifique costume romain, à savoir un casque d'argent, une perruque flottante, une cuirasse de cuir doré, richement brodée, un manteau de velours bleu de ciel et des bottines de maroquin cramoisi, et sous cet habit je montais mon cheval bai Brian et enlevais trois bagues et remportais le prix sur toute la noblesse du duché et des pays voisins qui étaient venus à la fête. Une couronne de laurier doré devait être le prix du vainqueur et elle devait être décernée par la dame qu'il choisirait. Je galopais donc vers la galerie où la comtesse Ida était assise derrière la princesse héréditaire et prononçant son nom avec force, mais avec grâce, je demandais qu'il me fût permis d'être couronné par elle et me proclamais ainsi, à la face de toute l'Allemagne, pour ainsi dire, son prétendant. Elle devint très pâle et la princesse très rouge à ce que je remarquais. Mais la comtesse Ida finit par me couronner. Après quoi, enfonçant les éperons dans les flancs de mon cheval, je fis au galop le tour de la reine, saluant son Altesse le duc à l'extrémité opposée et exécutant avec mon bai les plus merveilleux exercices. Mon succès, comme vous pouvez imaginer, n'augmenta pas ma popularité parmi les jeunes gens de la cour. Ils me traitèrent d'aventurier, de fanfaron, de pipeur de dés, d'imposteur et d'une centaine de jolis noms. Mais j'avais un moyen de faire taire ces messieurs. Je pris à partie le comte de Schmetterling, le plus riche et le plus brave des jeunes gens qui paraissaient avoir des vues sur la comtesse Ida, et je l'insultai publiquement au ridotto en lui jetant mes cartes à la face. Le lendemain, j'étais à 30 000 de là, sur le territoire de l'électeur de B, où je me baptis avec M. de Schmetterling et lui passai deux fois mon épée au travers du corps. Puis je m'en revins à cheval avec mon second, le chevalier de Magny, et me présentai le soir même au whist de la duchesse. Magny avait eu d'abord beaucoup de répugnance à m'accompagner, mais j'insistai pour qu'il me secondât dans ma querelle. Aussitôt que j'eus rendu mes devoirs à son Altesse, j'allai à la comtesse Ida et lui fis une profonde révérence, la regardant fixement au visage jusqu'à ce qu'elle devint cramoisie, puis promenant les yeux sur chaque homme de son cercle, jusqu'à ce que, ma foi, je leur eusse fait baisser les leurs. Je chargeai Magny de dire partout que la comtesse était amoureuse folle de moi. Commission qu'avec plus d'une autre, le pauvre diable fut obligé d'exécuter. Il faisait une assez sotte figure, comme disent les Français, jouant pour moi le rôle de pionnier, me louant en tout lieu, m'accompagnant toujours, lui qui avait été le roi de la mode jusqu'à mon arrivée. Lui qui croyait que sa généalogie de mendiant était supérieure à la race des rois d'Irlande dont je descendais, qui m'avait 100 fois traité un ricanant de spadassin, de déserteur, et m'avait appelé le vulgaire parvenu irlandais. Maintenant, je pouvais me venger de ce monsieur, et je m'en vengeais. J'avais coutume de l'appeler, dans les sociétés les plus choisies, de son nom de baptême, Maxime. Je disais « Bonjour, Maxime, comment vas-tu » aux oreilles de la princesse, et je pouvais le voir se mordre les lèvres de fureur et de vexation. Mais je le tenais dans mes mains, et la princesse aussi, moi, pauvre soldat du régiment de Bulov. Et ceci prouve ce que peuvent le génie et la persévérance, et ce devrait être un avertissement pour les grands de ne jamais avoir de secret s'ils peuvent faire autrement. Je savais que la princesse me haïssait, mais que m'importait. Elle savait que je savais tout, et même, je crois, ses préventions contre moi étaient si fortes qu'elle me supposait assez indélicat pour trahir une dame, ce que je dédaignerais de faire, de sorte qu'elle tremblait devant moi comme un enfant devant son maître d'école. Elle se permettait aussi, en vraie femme qu'elle était, toutes sortes de plaisanteries et de ricanements sur moi les jours de réception, et me questionnait sur mon palais d'Irlande et sur les rois, mes ancêtres, me demandant si, quand j'étais simple fantassin dans le régiment de Bulov, mes augustes parents n'étaient pas venus me tirer d'affaire, et si la bastonnade y était vertement administrée. Enfin, tout ce qui pouvait me mortifier. Mais Dieu vous bénisse, je savais faire la part des gens et j'avais coutume de lui rire au visage. Tandis que ces plaisanteries et ces railleries allaient leur train, je prenais plaisir à regarder le pauvre Magny et à voir comment il les supportait. Le pauvre diable tremblait de me voir éclater sous les sarcasmes de la princesse et tout dire. Mais ma vengeance consistait, lorsque la princesse m'attaquait, à lui dire quelque chose d'amer, à lui de le rendre aux voisins comme font les enfants à l'école. Et c'était toucher la corde sensible de son Altesse. Elle souffrait autant des coups que je portais à Magny que si je lui eusse dit quelque chose de blessant à elle-même. Quoiqu'elle me détestât, elle me demandait pardon en particulier. Et quoique son orgueil l'entraînât souvent, sa prudence obligeait cette magnifique princesse de s'humilier devant ce pauvre petit Irlandais sans le sou. Dès que Magny eut renoncé en forme à la comtesse Ida, la princesse rendit sa faveur à cette jeune personne et prétendit l'aimer beaucoup. Pour être juste envers elle, je ne sais pas laquelle des deux me haïssait le plus, de la princesse qui était toute ardeur et feu et coquetterie, ou de la comtesse qui était toute dignité et toute splendeur. Cette dernière, surtout, prétendait m'avoir en dégoût. Et cependant, après tout, j'ai plu à mieux qu'elle. J'étais autrefois un des plus beaux hommes de l'Europe, et je défierais tous les eunuques de la cour de mesurer avec la mienne leur poitrine ou leurs jambes. Mais je ne m'inquiétais d'aucune de ces sottes préventions, et j'étais déterminé à la conquérir et à la posséder en dépit d'elle-même. Était-ce à cause de ses charmes ou de ses qualités? Non, elle était toute blanche, maigre, myope, grande et gauche, et j'ai un goût tout contraire. Et quant à son esprit, il n'est pas étonnant qu'une pauvre créature, qui s'était engouée d'un misérable enseigne déguenillé, ne sût pas m'apprécier. C'était à son bien que je faisais la cour. Quant à elle-même, ce serait compromettre mon goût d'homme à la mode que d'avouer que j'en eusse pour elle.